Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. On est ensemble comme tous les jours, vous en avez l'habitude, pendant une heure pour aborder une thématique d'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. Est-ce que le wokisme représente un danger pour la famille ? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Louise Barraud, coporte-parole Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Merci à vous. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée.
Et surtout, merci d'être là. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on fasse un point de définition. Le wokisme, c'est une idéologie qui lutte pour une certaine conception de la justice sociale à travers la défense de certaines causes. Ces causes, elles sont nombreuses. Défense des personnes noires aux États-Unis, défense de l'égalité homme-femme, des droits des personnes LGBT. Ludovine Delarochère, la définition que je viens de donner, c'est votre définition du wokisme ?
Oui, si ce n'est que vous avez évoqué, par exemple, d'abord, il y a toute une structure de pensée très spécifique au wokisme qui concerne un certain nombre de minorités qu'il s'agit de défendre parce qu'elles seraient victimes en tant que telles, comme personnes de couleur, comme femmes, comme personnes LGBT, etc. Et donc, il y a toute une structure qui est très spécifique parce que ces personnes que j'évoque, du fait de leur identité réduite à leur couleur de peau, leur sexe, etc., elles seraient victimes oppressées par des supposés dominateurs. Et quand vous évoquez l'égalité homme-femme, par exemple, l'égalité homme-femme, tout le monde est pour. Ça n'est pas du tout particulier au wokisme. Mmh. Mais en vérité, justement, le wokisme part du principe, typiquement, part de l'idée que les femmes sont de manière systémique les victimes du mâle dominateur dominant, les victimes d'un supposé patriarcat. Et c'est là toute la particularité du wokisme entre des dominants et des dominés, des opprimés et des oppresseurs. Et nous serions victimes ou oppresseurs du fait même de notre caractéristique, encore une fois, de couleur de peau, de sexe ou d'orientation sexuelle. Donc c'est tout à fait spécifique. C'est tout à fait spécifique. Et pour moi, cela pose problème puisque cela nous essentialise, nous réduit à une partie de notre identité. Et c'est par ailleurs très caricatural, très simpliste. La vie est infiniment plus compliquée que cela, en fait.
Louise Barraud, c'est une définition que vous partagez.
Alors, pas tout à fait. Le wokisme, c'est un mot que je connais bien puisqu'on m'a souvent traité de personne woke. Moi, à titre personnel et plusieurs personnes de mon parti. Le wokisme, si on revient à son étymologie qui veut dire ouvert, éveillé, dans le sens éveillé aux problèmes, aux injustices sociales que peuvent rencontrer certaines populations. Initialement, c'était un mot qui avait été employé par des personnes de la lutte Black Lives Matter aux États-Unis dans les années 70 et qui est revenu en force en France il y a quelques années pour stigmatiser un petit peu les luttes sociales et les luttes de genre, d'égalité homme-femme, le féminisme, etc. Sur le wokisme, c'est pas quelque chose que c'est plutôt un mot qui est utilisé par nos détracteurs, mais je connais assez peu de gens qui se revendiquent du wokisme. En tout cas, ou alors de manière ironique. C'est à mon sens un terme qui n'a pas, sur lequel il n'y a pas de consensus scientifique.
Alors, là-dessus. Si vous me permettez, j'allais reprendre le terme woke, being woke. C'est un terme qu'en fait on a vu de manière épisodique tout le long du XXe siècle, qui a ressurgi en particulier au début du XXIe siècle, avec des chansons de Airbnb, etc. Avec en effet une utilisation du terme plutôt dans la communauté afro-américaine. Et puis, il faut quand même rappeler que le mouvement Black Lives Matter, qui a donné une très grande notoriété à ce terme, à lui-même, où certains de ses membres ont participé à la réalisation d'un documentaire sur leur histoire, et le documentaire qui date de 2016, s'appelait Stay Woke, The Black Lives Matter Movement. Donc ce terme était parfaitement assumé, mais il est vrai que depuis quelque temps, il n'est plus assumé par ceux qui sont les porteurs de cette lutte des minorités. Alors ce sont des minorités non pas en quantité, mais en identité. La minorité, elle peut être très nombreuse. Par exemple, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et les femmes sont une minorité, sont considérées comme une minorité, victimes de manière systémique, encore une fois. Par exemple, on évoque la culture du viol, etc. Toute notre culture, toute notre société, tout notre langage, tout notre raisonnement, toute notre logique, et même toutes nos connaissances, et ça va jusqu'aux mathématiques, seraient, par exemple, sexistes, mais aussi racistes, LGBTophobes, etc., etc. Mais bon, pour revenir au terme, c'est vrai qu'il n'est plus assumé aujourd'hui par ceux qui en sont les porteurs.
Alors, Madame de la Rochère a raison de souligner que c'est un terme qui est encore aujourd'hui très utilisé aux États-Unis. En France, c'est un terme récemment utilisé. On l'employait assez peu dans le langage courant jusqu'à quelques années. Il a un peu supplanté le terme d'islamo-gauchiste, dont on a beaucoup été accusé, nous, personnes de gauche, et en partie chez Europe Écologie Les Verts, où il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. C'est aussi venu un peu supplanter la bien-pensance, même les droits de l'homiste, comme si être contre... Enfin, pour moi, c'est un terme qui, à la base, ne devrait pas être stigmatisant, puisque les combats que portent les personnes woke et ce que vous semblez appeler le wokisme me semblent tout à fait pertinents, tout à fait justes, à savoir lutter contre une société plus juste, plus égalitaire et pour l'inclusion...
Pour une société plus juste, oui, vous voulez dire, je pense, parce que vous avez dit contre.
Pour lutter pour une société plus juste, plus égalitaire, plus inclusive pour les personnes LGBTQIA+, pour les femmes, et puis puisque vous le soulignez, pour contre un certain nombre de dictats, de schémas de pensée, comme le patriarcat et la culture du viol. Pour vous, ils sont supposés. Pour moi, je les considère comme bien présents.
Bon, je vous remercie parce que vous confirmez donc tout à fait l'analyse que je présente du wokisme, enfin le sens du wokisme. Je souligne qu'il y a des grands universitaires français qui ont sorti des ouvrages. Là, il y en a un qui s'appelle « La religion woke » de Jean-François Bronstein, qui est un philosophe, qui a enseigné toute sa vie à la Sorbonne, donc c'est pas n'importe qui, et qui donc vient de publier cet ouvrage. Il y en a d'autres qui sont sortis, d'autres qui sortiront. Et vous avez raison, je vous rejoins. Le terme s'emploie de manière assez récente en France, c'est exact, puisque cette idéologie venue des États-Unis, cette lecture très idéologique de la réalité, puisque elle donne une grille de lecture très simplifiée du réel, nous vient des États-Unis. Alors après, on peut discuter de l'ancienneté, ou comment est-ce arrivé aux États-Unis, enfin, la French Theory, Derrida, Foucault, etc. En tout cas, c'est aux États-Unis que cela s'est développé, et ça nous revient en France depuis quelques années, mais c'est pour ça que le terme est apparu en France plus récemment, c'est assez logique. Je parle d'idéologie. Anna Arendt, dans Les origines du totalitarisme, expliquait de manière très... très clair et très bien défini, enfin bien explicite, que l'idéologie, c'est le fait de partir d'un principe, d'une idée, et à partir de là, d'expliquer tout le réel. Or, le réel est infiniment complexe, infiniment compliqué. Par exemple, je prends la question du racisme. Le racisme, malheureusement, et c'est infiniment désolant naturellement, existe, c'est exact. Il existe entre les personnes de différentes couleurs, mais il existe les blancs vis-à-vis des noirs, les noirs vis-à-vis des blancs, vis-à-vis des personnes asiatiques, vis-à-vis des personnes israélites, que sais-je. Et il existe aussi entre les blancs, entre les noirs, etc. etc. Alors d'ailleurs, je note au passage que dans le wokisme, on ne dit pas personne de couleur, on dit plutôt racisé. Et donc par ailleurs, le wokisme a fait ressurgir le concept de race, qui en Occident n'est pas reconnu du tout, puisque une race, c'est une manière de stigmatiser, de discriminer ce contre quoi luttent les woke. Et c'est une manière de dire ceux-là sont différents, où il y a des différences. Et en France, c'est un terme qu'on n'emploie pas, qu'on n'employait plus, notamment en particulier suite à la Seconde Guerre mondiale et à tous les traumatismes qu'elle a laissés sur la manière dont nous avions été ou dont certains pays, certaines nations ont été capables d'en traiter d'autres. Et c'est très intéressant de voir que le wokisme ramène la question des races et du coup le wokisme aussi favorise le communautarisme et le repli sur ceux de la même identité que soi-même. C'est très étonnant et c'est pour ça qu'on dit souvent que le wokisme va à l'encontre de l'universalisme républicain et à l'encontre de notre République aussi une et indivisible.
Maintenant qu'on a fait Un bon point de définition.
Est-ce que je peux quand même revenir ?
Peut-être un petit mot et après on passera sur la grande thématique qui est le wokisme, un danger pour la famille.
Oui, il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire. Vous vous appuyez sur des universitaires qui défendent la théorie du wokisme. Je vous en citerai d'autres qui, tout aussi prestigieux que celui que vous avez cité, Francis Dupuy-Derry qui a écrit « Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires », qui est un universitaire canadien qui explique que le terme de wokisme ne se base sur aucun concept scientifique et n'est pas théorisé de cette façon-là, ne recouvre aucune réalité.
Donc les gender studies n'existent pas, les post-colonial studies n'existent pas, les fat studies n'existent pas.
Les gender studies existent bien et elles sont de plus en plus étudiées. Néanmoins, il y a une énorme différence entre s'intéresser aux luttes des personnes LGBTQIA+, des femmes, de l'histoire des femmes et de leurs droits, des personnes racisées. Moi non plus, j'aime pas trop ce terme, mais il est employé par les personnes concernées. Et le wokisme. Le wokisme, c'est une sorte de fourre-tout dans lequel on met toutes les luttes pour le progrès social de façon à les stigmatiser.
Alors, vous venez vous-même d'évoquer, en fait, dans ce que vous vouliez défendre et dans les causes sociales et la justice sociale, vous avez vous-même évoqué les femmes, les LGBT, les personnes racisées. Donc, en fait, vous-même, vous confirmez exactement mon propos, qui est de mêler des causes très, très différentes et de considérer qu'un certain nombre de minorités supposées sont toutes des victimes qu'il faut défendre et les autres n'étant que dans l'oppression. Donc, en fait, vous avez exactement confirmé ce que j'ai dit. Et si vous le permettez, une autre chose. Moi, j'ai entendu pendant des années Najat Vallaud-Belkacem qui disait « la théorie du genre n'existe pas, la théorie du genre n'existe pas, la théorie du genre n'existe pas ». Elle en avait elle-même parlé dans un interview, en fait, au quotidien 20 minutes quelques années avant, mais peu importe. Ce que nous remarquons tous, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable propagande en faveur des transitions, de la remise en cause des identités sexuelles, de la remise en cause des sexes garçons et filles. Supposément, on ne serait pas garçon ou fille, on aurait juste des sexes qui nous auraient été assignés par la société à la naissance, et supposément chacun devrait s'autodéterminer sur le curseur du masculin ou du féminin, voire n'être ni masculin ni féminin, voire être masculin et féminin à la fois. Ben, c'est ça la théorie du genre. Et vous voyez, quand j'entendais Najat Vallaud-Belkacem disait ça n'existe pas, eh bien nous sommes en plein dedans, et aujourd'hui le nier, si on le nie, c'est qu'on sort pas de chez soi et on n'est pas sorti du confinement depuis au moins 3 ans.
Cette théorie du genre, justement, pour vous, c'est un des dangers que vous identifiez pour la famille. Vous avez tenu une conférence jeudi dernier à Bruguière, en banlieue de Toulouse. Justement, la théorie du genre, c'est le principal danger pour vous.
Oui, tout à fait, parce que, alors justement, je vous remercie de votre question. Dans l'idéologie du genre, on considère que, ce que je viens de dire, le fait qu'on naisse, qu'on soit de facto garçon ou fille serait sans importance, n'aurait pas de sens, n'aurait pas de signification. Simplement, la société à la naissance nous assignerait un sexe, donc c'est pas qu'elle serait dans le constat de ce qui est, la société nous imposerait, en fait, le terme est très négatif, un sexe, de manière à assurer la domination des hommes sur les femmes, et nous serions éduqués avec tous les stéréotypes de genre possibles et imaginables depuis toujours, les petites filles étant supposées être soumises, dévouées au service, etc., et les garçons étant supposés être préparé pour le pouvoir, préparé pour dominer. Par exemple, dans la cour de récréation, les petits garçons occuperaient plus d'espace parce que on leur donnerait plus d'espace parce que on les préparait à être des hommes qui vont dominer les femmes. Et toute cette idée des stéréotypes de genre explique qu'aujourd'hui on nous dise pour lutter pour l'égalité homme-femme, il faut lutter contre les stéréotypes de genre. Et en fait, c'est une certaine recherche de l'indifférenciation des sexes parce qu'il y a une confusion entre indifférencier les sexes et l'égalité des sexes. Moi, je suis évidemment pour l'égalité homme-femme, mais après, je me réjouis de la différence que l'on peut, d'une manière générale, constater entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est une diversité. On parle beaucoup de diversité. Eh bien, voilà une très belle diversité. Voilà quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je me désole qu'on veuille lutter contre cela. Alors, bien sûr, en fait, ce qu'on appelle le terme de stéréotype de genre est très négatif. Et cela dit à quel point la vision des hommes et des femmes est négative dans cette idéologie du genre. Mais les hommes et les femmes enfin pardon, les stéréotypes, si on le met dans un langage un peu plus courant et non idéologue, en fait, c'est la manière d'être comme homme et comme femme selon la société dans laquelle on est et selon le lieu. Et c'est vrai que selon les époques, le fait d'être homme ou femme ne s'est pas toujours exprimé tout à fait de la même manière. Par exemple, à une époque, on mettait des robes aux petits garçons. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça, c'est vrai. Mais si vous voulez, il y a quand même, c'est l'inné et l'acquis, il y a quand même une réalité qui est qu'on est homme ou femme et que cela impacte notre corps, d'ailleurs impacte notre psychisme. Et puis après, il y a l'expression de cette féminité, de cette masculinité. Et donc il y a en quelque sorte, pourrait-on dire, des habitudes, des usages, des normes. Alors dans le wokisme, dans l'idéologie du genre, on veut casser toute norme. Moi, je reconnais qu'il y a des normes, des habitudes qui sont tout à fait belles, enrichissantes, justifiées. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes et contre lesquelles il faut lutter. Mais je ne généraliserai certainement pas parler de culture de viol. Vous l'avez fait vous-même il y a quelques instants. C'est tout à fait typique du wokisme. La culture du viol, elle revient à dire que la société est organisée, structurée, de manière à tolérer le viol et à laisser faire le viol en ne luttant pas contre. Alors le viol est scandaleux, il faut lutter contre, mais dire que toute notre société le facilite, l'admet, le tolère et que c'est une espèce de complot finalement contre les femmes, pour moi, c'est vraiment de l'idéologie, c'est vraiment du complotisme et c'est désolant parce que dès lors que la lecture d'analyse n'est pas la bonne, alors on ne peut pas trouver des solutions pour des faits qui, effectivement, sont scandaleux.
Louise Barrault, oui. Sur ce qui vient d'être dit.
Alors, je suis entièrement d'accord qu'à partir du moment où la grille de lecture n'est pas la bonne, il est difficile d'analyser la situation. Simplement, j'ai une lecture du monde et de la société différente de la vôtre. Vous parlez de je ne sais plus le terme que vous avez employé, mais d'incitation à changer de genre ou propagande.
En cause, voilà. Du fait d'adhérer aux filles.
Moi, je parlais plus de mise en lumière sur sur les identités de genre avec la possibilité aux personnes qui n'étaient pas le cas avant de pouvoir plus s'exprimer sur ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes et comment ils se sentent. Moi, je trouve très bien qu'on déconstruise les identités de genre en ce moment, qu'on tente en tout cas de casser les stéréotypes qui sont liés au caractère féminin et au caractère masculin. Il n'y a pas de différence biologique de cerveau entre les hommes et les femmes, et donc par essence il n'y a pas de caractéristiques de comportement qui seraient plus appropriées pour un homme et une femme. Or, c'est un fait que depuis notre enfance, on est éduqué différemment, que les hommes et les femmes sont éduqués différemment. On ne valorise pas les mêmes choses chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles. Ça passe par la représentation dans les livres pour enfants, dans les films, dans les rôles dans lesquels les garçons et les filles sont représentés, dans les jouets qui sont conçus pour eux. Et je pense que un effacement de ces différences au jeune âge est quelque chose de tout à fait positif. Alors, vous disiez qu'on ne se définissait pas en les hommes et les femmes de la même manière en fonction des époques. Eh bien, c'est vrai. Je pense que au XXIe siècle,
on n'exprimait pas tout à fait la féminité et la masculinité de la même manière. Absolument. Mais on exprime toujours la différence des sexes dans toutes les sociétés. On l'a toujours exprimé.
Alors, je suis pas certaine de ça. Il n'y a pas forcément ça n'a pas forcément toujours été le cas. Et puis, je suis pour
si
que...
Si vous trouvez
je
une société
ça,
dans laquelle... Je vous
suis
écoute
pour
très
que
volontiers.
Ça
si vous
est,
trouvez une
suis...
société dans laquelle les hommes et les femmes avaient exactement les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes usages, les mêmes apparences, etc. Pour ma part, je n'en connais pas. Toutes les sociétés ont toujours marqué la différence.
Alors
des
oui, il y a des récentes recherches archéologiques qui montrent que dans la préhistoire, au paléolithique, les structures d'hommes et de femmes étaient beaucoup moins hiérarchisées et genrées qu'aujourd'hui.
Alors attendez, On a parlé de différence des genres et vous mettez de la hiérarchie là-dedans. Vous voyez, c'est ça qui est
très
intéressant.
Bien sûr, vous aussi, vous mettez
de
la hiérarchie là-dedans.
Moi, je sur le fait que, d'abord, vous parlez des identités de genre. Vous voyez, c'est intéressant.
C'est,
vous êtes déjà...
c'est vous qui avez abordé ce terme en premier.
Bien sûr, en expliquant ce qu'est le wokisme. Ouais, tout à fait. Et donc, l'identité des genres, c'est ce que vous, vous défendez et vous portez. Et vous dites qu'il faut déconstruire, vous voyez,
bien
vous
sûr.
Êtes dans la déconstruction.
Absolument, absolument. Je le revendique.
Il faut déconstruire notre société, notre culture, il faut déconstruire tout ce que nous avons à l'esprit.
Il faut déconstruire nos stéréotypes. Qui font nos inégalités.
Mais il y a des très
et pourquoi il ne faudrait pas le faire justement? Pourquoi
il
ne faudrait
pas
déconstruire?
Mais par exemple, parce que nous sommes hommes ou femmes, et contrairement à ce qu'a dit mademoiselle, il y a des différences majeures sur le plan neurobiologique, sur le plan cérébral. Il faut que vous lisiez quelques ouvrages de neurosciences, mademoiselle, et vous allez découvrir que nous avons des différences.
On pourra s'en échanger si vous voulez.
Non, mais absolument, on pourra échanger. Il faut lire et vous découvrirez que le cerveau du garçon et le cerveau de la fille, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien que l'autre, c'est qu'il y a des différences majeures. Vous noterez que le développement du petit garçon, déjà in utero bébé, enfin fille ou garçon, n'est pas du tout le même. Le développement du cerveau n'est pas le même. Vous noterez aussi que entre l'homme et la femme, il y a des différences assez majeures. Et par exemple, tout simplement, la sexualité de la fille est intérieure à son corps. Et de même, c'est elle qui portera plus tard un bébé. Eh bien oui, mais tout cela impacte. La femme, elle vit selon des cycles de la nature. Elle a toute une période de vie féconde qui est beaucoup plus courte. Là où l'homme, lui, a une sexualité qui est extérieure à lui, qu'il ne contrôle pas forcément, qui peut être visible.
Alors,
lui ne porte pas un enfant, pardonnez-moi, je continue. Il n'a pas de cycle récurrent du fait de sa nature même. Il a une vie qui est beaucoup plus dans une durée et dans une stabilité dans une régularité parfaite et qui n'est pas avec des cycles de 30 jours. Et lui, en l'occurrence, sa période de fécondité, elle est beaucoup, beaucoup plus longue, elle s'étire dans sa vie, dans la vie. Et cela explique tout simplement une partie de ce qu'on trouve, non pas de manière systématique, je ne suis pas du tout dans le systématisme, mais tout cela importe, tout cela a du sens, c'est une signification. Et vous voyez, vous dites, on donne des jouets comme ci ou comme ça aux petits garçons, aux petites filles, mais on a bien observé dans certaines populations, ça a été fait tout récemment, justement, des études, même chez les mammifères, on observe une différence entre les mâles et les femelles. Alors, je ne réduis pas du tout au biologique, mais le fait est que les garçons ont de la testostérone. Les hormones ont une influence immense sur tout notre système, sur tout notre corps et sur notre cerveau, et du coup sur nos comportements. Et les femmes, au contraire, sont dans un bain hormonal qui est complètement différent. Et elles ont, et on a toujours dit, et c'est vrai parfois de manière un peu caricaturale, qu'il y avait plus d'intériorité chez la femme. Le fait est qu'une petite fille, je pense, qui plus tard sait qu'elle portera des enfants en elle-même, a probablement et développe un sens des responsabilités parce qu'elle sait qu'un jour, elle nourrira. Et de la même manière, quand une jeune fille, enfin une jeune mère accouche d'un bébé, elle a un lien fusionnel avec ce bébé parce que tout simplement elle vient de le mettre au monde, et un homme arrive de manière différente, il arrive de l'extérieur dans une relation qui est déjà, qui préexiste entre la mère et l'enfant. Mais je décris simplement tout cela pour vous dire que c'est différent. Ça veut pas dire attention que c'est mieux ou moins bien.
Oui.
Vous voulez absolument que les femmes soient comme les hommes. Mais moi je pense que les femmes en tant que telles sont extraordinaires, comme les hommes le sont eux aussi, mais différemment. Et je pense que les femmes, pardon, n'ont pas à être des hommes comme les autres. Moi, je n'envie pas les hommes, pardonnez-moi.
La réponse de Louise Barrault avant une pause musicale.
Oui. Vous avez très bien décrit comment fonctionnait la biologie d'un homme et d'une femme. Je vous en remercie. Je ne vois cependant pas le rapport entre la place de l'homme et la femme dans la société. C'est pas parce que les femmes ont des cycles menstruels et que les hommes ont une période de fécondité
plus longue. Parce que ça implique un psychisme aussi différent, mademoiselle.
Alors là, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Ce n'est pas parce que moi, en tant que femme, je suis en capacité de porter la vie que j'ai un plus grand sens des responsabilités. J'ai un plus grand sens des responsabilités parce que depuis mon enfance, on m'a dit qu'en tant que femme, il fallait que je sois plus responsable que les garçons.
C'est terrible, c'est un déterminisme social et culturel, mais vous êtes dans une prison, c'est épouvantable.
Mais alors, je vous remercie de vous inquiéter de mon éducation. Simplement, je ne suis pas un cas isolé, bien au contraire, j'ai quand même l'exemple que vous
devez
porter.
Et alors d'apprendre le sens des responsabilités, vous trouvez ça épouvantable ?
C'est absolument pas ce que je dis.
Ah bon,
c'est
d'accord.
Et du coup, c'est que moi, si j'avais été un garçon, on n'aurait pas été, on m'aurait pas dit d'être aussi responsable, de autant me taire, de autant faire attention à ce que je dis, autant faire attention à comment je m'habille, autant
mais vous croyez vraiment que vous avez des neveux, des nièces, des enfants?
Oui,
vous n'avez jamais vu dans un groupe d'enfants, tout simplement, mais dès la naissance, attendez, je vais vous raconter une chose. Dès la naissance, il y a des différences entre la petite fille et le petit garçon dans la manière dont le tout petit nouveau-né, ou quelques jours plus tard, dans la manière dont son regard suit les personnes ou les objets. Ça n'est pas la même chose entre les petits garçons et les petites filles. Il y a de multiples différences, mais qui s'expliquent. Non, c'est pas une théorie, c'est de la science. Ça s'appelle la neuroscience. Ça, c'est pas du tout des théories. Et donc, vous m'accorderez qu'à quelques jours de vie, ça n'est pas encore la société qui a pesé et qui est venue contraindre l'enfant pour assurer la domination plus tard du garçon.
Alors, on va peut-être recentrer le débat.
Ah bon, on est en plein dans le sujet.
Je vous propose juste une pause musicale, comme ça on souffle et on revient dans 3 minutes et on reprend cette question-là autour du wokisme, un danger pour la famille. On écoute, c'est une chanson de Claudio Capeo.
C'est une chanson que me chantait ma mère qui parle d'amour et d'Italie. Je la porte à moi, c'est comme une prière pour les jours où je n'aime pas la vie. C'est une chanson qui parle d'être fier, de bâtir quelque chose de ses mains. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e stonito. Une rengaine qui soigne les blessures, une bouffée d'air pur de liberté. Un petit poème qui me servait d'armure quand la nuit ne savait plus me bercer. La douleur n'est qu'une piqûre, on guérit de tout, j'en suis sûr, je te jure, le monde n'est pas si dur. Il faut rêver beaucoup, un point c'est tout, c'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Oh, c'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e stonitoro. Presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e stonitoro. C'est un fait, la vie est une fête, tout qu'on fait. Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e stonitoro. Vai avanti, vai avanti, e abbracciami. Chiudi gli occhi quanto è nero.
Présence. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, et je suis toujours en compagnie de Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, et Louise Barraud, co-porte-parole Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Pour attaquer cette deuxième et dernière partie d'émission, j'aimerais partir d'un constat. Il est important de pointer du doigt que les générations actuelles sont beaucoup confrontées à la violence, aux injustices, aux discriminations. On le voit, les réseaux sociaux, même tout simplement dans leur quotidien. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison particulière qu'elles veulent que ça change, Louise Barraud?
Alors effectivement, vous avez raison de souligner qu'on a la chance de voir une jeunesse très très engagée aujourd'hui sur une multitude de sujets. particulièrement sur les questions climatiques et de réchauffement climatique. Les jeunes sont très inquiets pour l'avenir de la planète. Je vois aussi des jeunes hommes et des jeunes femmes très, très, très impliqués sur le féminisme. C'est un des combats les plus... quand on rencontre beaucoup de jeunes chez ELV qui abordent la question politique par le féminisme et par la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une jeunesse qui est plus éduquée, avec un avenir plus incertain et du coup, certes, peut-être aussi plus connectée grâce aux réseaux sociaux et qui a plus envie de se battre. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Ludovine de la Rochère, une réaction sur ce qui vient d'être dit ?
Écoutez, j'allais dire que d'abord, il y a toute une propagande qui est faite aujourd'hui de manière massive sur les réseaux sociaux, par des influenceurs, par les manuels scolaires, par des intervenants associatifs, dans les séries, les télés, etc., pour la faire courte, est une propagande, j'allais dire woke, et qui tente à faire voir des injustices là où il n'y en a pas. Par exemple, d'ailleurs, on vient d'assister à ce drame entre Julia Bayou et Sandrine Rousseau, qui elle-même a dénoncé de manière stupéfiante, diffamatoire, a mené une véritable chasse aux sorcières, contre un homme qui est visiblement un rival politique, dont au final, je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable, mais pour elle, il était présumé coupable. Cette campagne a été véritablement honteuse, et véritablement, on voit bien que dans ce néo-féminisme, et je reviendrai après sur l'écologie, il y a l'idée que les hommes sont de toute façon, en tant qu'hommes, des coupables. Et ça n'est pas « sont-ils sexistes ?» c'est « je vais montrer et je vais trouver où est son sexisme, où est sa domination, où est sa violence à l'égard des femmes. » C'est scandaleux. On en vient à des situations d'injustice qui sont, des situations qui sont absolument contraires aux droits les plus élémentaires des uns comme des autres. Et pour revenir sur la question écologique, c'était ça que j'allais vous dire aussi. Donc, pardonnez-moi, je finis sur cette logique de ce néo-féminisme, un féminisme woke. Toute micro-agression est vécue comme un symptôme d'une culture qui, de manière générale, serait patriarcale et sexiste. Or, la France, vous ne pouvez pas faire plus égalitaire comme pays.
Je pense qu'on a une belle marge de progression.
Mais vous pourriez plutôt vous attaquer à beaucoup d'autres pays sur la planète qui sont autrement plus injustes du point de vue par exemple,
ça ne nous empêche pas de les dénoncer, mais on se bat dans le pays dans lequel on veut.
Oui, oui, bien sûr.
Et sur la question écologique, c'est ce qui nous intéressait justement.
Vous avez tout à fait raison, et j'en viens à la question écologiste. C'est pas une question woke, mais on arrive un peu à la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de climat de peur, d'anxiété qu'on instaure et qui est absolument terrifiante. Nous devons, en effet, il y a de quoi être inquiet, c'est sûr. Il faut agir, il faut prévenir, il faut changer nos habitudes, mais la manière dont on procède, quand je vois la petite Greta Thunberg, qu'on a vu littéralement en état de dépression, c'est terrifiant. Il y a une espèce de panique, et ça, c'est malsain. Et on voit des jeunes qui disent « je n'aurai pas d'enfant plus tard », c'est terrible. Et en même temps, à côté de ça, par exemple, comme vous le disiez, ils sont très très présents sur les réseaux sociaux pour un certain nombre d'entre eux. Ah oui, mais les réseaux sociaux, les téléphones et les écrans, c'est consommateur d'énergie, ça crée de la chaleur, et c'est également mauvais pour la planète. Donc il y a aussi plein de contradictions.
Comment on fait justement pour alerter sur cette question du réchauffement climatique ?
Mais je pense qu'il faut le faire de manière posée, sereine, sans être dans la caricature, dans l'affolement. Mais vitesse ne veut pas dire panique. Mais attendez, arrêtez, il faut se calmer. Et regardez, les écologistes nous ont fait faire des erreurs monumentales sur le nucléaire en Allemagne et en France aussi. Sous la pression des écologistes, il a fallu renoncer au nucléaire. Le résultat des courses, c'est qu'on a remis en route en Allemagne et même en France, on prolonge la durée de vie de centrales à charbon, ce qui est exactement à l'encontre de l'urgence écologique, puisque aujourd'hui ça produit
davantage de réchauffement. Alors, c'est pas du tout pour cette raison-là, c'est par rapport à la guerre en Ukraine. C'est pour pouvoir faire face aux...
Non, les écologistes, les écologistes ont mis la pression pour fermer les centrales nucléaires et pour arrêter le nucléaire.
Qui devaient être fermées de toute façon parce qu'elles arrivaient en fin
non,
de
non,
vie.
Non, mademoiselle. En Allemagne, les écologistes ont fait pression pour arrêter le nucléaire et pour arrêter d'investir dans le nucléaire. L'Allemagne a donc même remis en route ses centrales au charbon, ça fait plusieurs années.
Et quant à la France,
après, il y a pénurie à cause de la guerre en Ukraine, ça c'est encore autre chose.
Mais les écologistes font faire des erreurs
immenses parce qu'il y a une espèce de panique qui est source d'erreurs et puis source d'angoisse. On ne peut pas pourrir la vie des jeunes en les mettant dans une angoisse existentielle. Bien sûr, il faut les rendre acteurs, il faut les informer, il faut les former, mais il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de caricature qui est très délétère pour eux. C'est terrible.
Mais après, c'est très concret. On l'a vu, les incendies en Gironde.
Mais les incendies, vous savez bien que c'était des dizaines et des dizaines d'incendies criminels. Vous le savez très bien. Non, mais alors, ce que je pourrais dire, je nie pas du tout le réchauffement climatique. Et ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en effet, cet été, on a tous vu qu'il faisait extrêmement chaud. Je ne nie pas le réchauffement climatique. Je nie simplement, et d'ailleurs, il n'y a pas du tout que les écologistes qui s'en inquiètent, d'une part, et d'autre part, simplement, la manière dont les écologistes conduisent leur discours et sont dans une espèce de panique. On a l'impression que c'est la fin du monde.
Ah, mais
c'est millénariste.
C'est la fin du monde. Enfin, je veux
mais mademoiselle, arrêtez de dire que c'est la fin du monde.
La fin du monde, je veux dire. C'est s'il faut qu'en passer par là...
C'est terrifiant.
Ça, oui, bien sûr, je suis terrifiée. S'il faut en passer par là pour qu'on nous entende, on va le dire, mais nous ne sommes pas alarmistes. Nous sommes même relativement...
Ah, vous venez de dire que ce n'est pas la fin du monde, mais vous n'êtes pas alarmiste.
Écologistes ne sont pas alarmistes. Nous ne faisons que reprendre des rapports scientifiques et essayer de mettre en place des solutions politiques pour que...
Il faut prendre un petit peu de recul. Il faut être dans la science pure. Mais vous êtes dans la politique, vous n'êtes plus dans la science.
Vous n'êtes pas dans la politique, peut-être. Vous venez sur ce plateau pour nous parler de l'idéologie que vous portez au niveau du wokisme.
Vous venez ici en France
une série de conférences sur le wokisme qui serait une panique pour l'idée que vous vous faites de la famille. C'est une vision extrêmement idéologique de la société.
Moi, je suis pas du tout en panique. Je suis absolument dans l'analyse, l'information et le décryptage. Ce qui est formidable, je vous en remercie beaucoup.
Ce n'est pas une analyse que vous faites. Vous savez, aujourd'hui, laissez parler
de la recherche et Louise Barrault juste après vous répondre.
Aujourd'hui, on parle le YEL, le pronom qu'il faut employer à la place du IUL, il ou elle. On a la circulaire de Monsieur Blanquer sur l'accompagnement des enfants trans. Il y a une explosion du nombre d'enfants trans. On parle de l'homme enceint. On parle de l'homme déconstruit. On parle du fait de l'identité de genre. On parle des cisgenres, des pangenres, etc. Nous sommes plongés dans cette propagande woke. Et j'en fais le décryptage dans ces méthodes qui consistent à nier, la réalité de l'homme et de la femme, qui consiste à prétendre que si homme il familia, il y a forcément une hiérarchie et une inégalité. C'est faux. Il faut se battre pour l'égalité. Oui, on est bien d'accord, mais il n'y a certainement aucune raison de nier la réalité sexuée de notre humanité. D'une part, et cette réalité sexuée, cette différence entre l'homme et la femme, c'est à la fois... Enfin, l'homme et la femme sont à la fois immensément ressemblants, bien sûr, et en même temps très différents, et c'est fantastique, c'est merveilleux. Et vous confondez inégalité et indifférenciation. Et moi, je pense que c'est très délétère et que nous perdons beaucoup à vouloir atténuer le féminin et le masculin et donc à vouloir effacer ce que vous appelez les stéréotypes de genre, et qui en fait sont simplement le féminin et l'expression du féminin et du masculin. Et pour revenir à la famille, parce que pardon, tout à l'heure, je n'avais pas répondu, et après, je vous repasse la parole. Pour moi, ce qui est tragique, c'est que quand on prétend que l'homme et la femme, c'est la même chose, ce qui est faux, c'est un mensonge, mais quand on prétend que l'homme ou la femme, ça revient au même, on prétend aussi, et c'est là qu'on arrive à la famille, qu'un père ou une mère, ça revient au même, c'est pareil, et c'est là qu'on en vient à dire, on peut donc avoir, bien sûr en faisant appel aux médecins, aux biologistes et à l'État, on peut avoir la procréation médicalement assistée sans père, la PMA sans père, et donc on peut priver un enfant de père volontairement, et on peut aussi recourir à la gestation pour autrui, alors ça concerne les couples hommes-femmes aussi, mais on peut y recourir parce qu'un enfant pourrait prétendre du moins avoir un père ou deux pères. Alors, je précise que dans tous les cas, que ce soit pour un homme et une femme ou un couple d'hommes ou un homme seul, la GPA est inacceptable. Mais le militantisme qui porte la légalisation de la GPA, c'est le militantisme LGBT woke, et cela revient à exploiter des femmes. Alors là, j'espère que vous luttez contre la GPA, mademoiselle, parce que alors là, c'est la GPA comme soumission de la femme, on ne peut pas faire pire. Et par ailleurs, on chosifie l'enfant que l'on traite comme une chose, puisqu'on peut le commander, alors on peut lui vouloir des yeux comme ci, des cheveux comme ça, un ovocyte par là.
Je pense que vous confondez avec le transhumanisme.
Non, la GPA, la gestation pour autrui, je pense que vous connaissez.
Oui, je connais. Alors rassurez-vous, elle n'est toujours pas autorisée en France, contrairement à la PMA qui l'est depuis l'année dernière. Le processus pour un parcours de PMA en France pour une femme seule ou un couple de femmes homosexuelle est tellement compliquée et elles ont tellement de bâtons dans les roues que
vous avez
pour
raison
le moment,
et nous avons et toujours dit qu'on vendait une illusion aux femmes qui croyaient qu'elles auraient accès à la PMA sans père. On a vendu une illusion. Vous êtes faites berner par les politiques parce que c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
C'est très compliqué.
Il faut
à mettre
fournir
en place
des
parce
hommes,
que,
donc des donneurs, à toutes ces femmes qui veulent
bien
des enfants sans
bien
père.
Sûr.
Mais elles ne veulent que les gamètes, elles ne veulent pas le père.
Et bah oui, bien sûr. Et bah, libre
elles
à elles.
Veulent pas d'hommes.
Libre à elles.
Et l'enfant dans tout ça.
Et l'enfant dans tout ça. L'enfant grandit avec, avec deux parents qui s'aiment, que ce soit avec deux femmes.
Avec deux parents
qui
se disputent ou qui s'aiment comme tous les couples.
Qui s'aiment comme tous les couples. De toute façon, je comprends. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui. À comprendre un peu l'enjeu de votre combat,
parce
étant
que,
donné
vous
que je ne sais pas,
sexe,
je ne sais
que
pas quelle est
peut
votre
avoir
conception
c'est
de la
vrai.
Famille.
Chacune à la fois. Louise Barreau, terminée.
Voilà. Je suis désolée si vous pouvez me reposer la question, puisque Madame de La Rochère est très volubile et dit beaucoup de choses et mélange énormément de choses. Du coup, je ne sais plus si la question portait sur les combats des jeunes, sur la supposée propagande LGBTQIA+, que mèneraient les gauchistes en France, ou sur la PMA et la GPA qui seraient la fin de la République.
Ces trois sujets qu'on a abordés, ma question de départ pour cette deuxième partie, c'était est-ce que les combats de ces jeunes ne sont pas-ils légitimes par rapport à ce qu'ils vivent? Et après, on est parti sur le sujet de la PMA et de la GPA. Et moi, je repose une question là-dessus par rapport à la PMA et la GPA.
Oui.
Madame de La Rochère identifie ça comme un danger pour la famille. Pour vous, ça l'est pas?
Non, pour moi, ce n'est pas un danger. Pour moi, c'est une évolution des droits de la famille. Alors certes, ce sont des familles d'un nouveau genre qui ne plairont certainement pas à Madame de La Rochère, mais qui seront composées de pères, de deux mères et de un ou plusieurs enfants. C'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des dizaines d'années. Et l'évolution de ces droits depuis 2013, avec la possibilité pour deux hommes ou deux femmes de se marier, la PMA pour toutes l'année dernière, c'est simplement redonner à ces personnes, à ces citoyens français, à ces citoyennes françaises, les mêmes droits que tous les autres citoyens et citoyennes. C'est qu'ils ne soient plus considérés comme des citoyens
vous
de
savez,
seconde
un couple,
zone.
Un couple homme-femme peut avoir un enfant, mais ce n'est pas une question de droit. C'est juste que la vie fait que le réel, c'est compliqué le réel pour vous, je vois,
ben
mais
non,
un couple homme-femme, il peut avoir un enfant. Il n'a pas besoin de l'État, il n'a pas besoin du médecin, il n'a pas besoin d'un biologiste.
Oui, biologiquement,
il n'a pas
il
besoin
peut,
que l'État gère la filiation de l'enfant.
Alors, je suis désolée, mais
vous êtes écologiste, c'est la nature.
C'est quelque chose d'extrêmement sociétal. C'est une construction sociale. La famille, c'est une construction sociale.
Le mariage,
c'est un contrat qu'on passe entre un homme et une femme.
Si vous
alors,
le permettez, quand vous dites que l'être humain n'est pas homme ou femme... Non, c'est là, je vous ai écouté là. Si vous qui osez dire qu'un être humain n'est pas homme ou femme...
J'ai pas dit qu'un homme,
l'identité de genre,
c'est
une
femme.
Pure construction sociale, une pure construction culturelle et subjective,
oui, tout comme
le
mariage,
tout
comme la famille.
Si vous le permettez, je poursuis. Un couple, enfin un homme et une femme qui ont un enfant, ça c'est le réel de notre humanité. Et j'allais dire même plus largement.
C'est biologique.
Nos corps, mais vous n'êtes pas dans le déni du corps. Je pense
je ne suis
corps,
pas dans le déni du
beau.
Corps, je suis dans le
nous
corps.
Sommes,
mais bien sûr,
nous
mais
sommes notre. Je
c'est
vais
pas parce que
bout.
C'est biologique que c'est dans l'ordre
vous
des
parler.
Choses.
Vais, Madame de La Rochère, finissez. Oui. Louise Barreau, vous répondez
nous
juste après. Ne n'interrompez pas.
Notre esprit que notre cœur, nos sentiments que notre corps.
Tout à fait.
Vous êtes dans le déni des corps, vous êtes dans une forme de puritanisme. Or, notre corps importe et notre corps impacte sur notre psychisme. Et notre corps nous permet. Un corps d'homme et un corps de femme permet de concevoir un enfant qui va venir au monde. Mais c'est extraordinaire. Et en l'occurrence, deux hommes ou deux femmes n'ont pas cette possibilité. Peut-être que vous qui êtes écolo, vous direz peut-être que la nature... Parce que finalement, vous niez la nature. C'est vachement
absolument
intéressant,
pas.
Vos contradictions. Si, parce que vous considérez qu'un enfant peut avoir deux mères ou deux pères.
Bien
c'est
sûr.
Faux. Il peut avoir une mère et une belle-mère, la conjointe de sa mère. Ou il peut avoir un père et un beau-père, le conjoint de son père. Mais un enfant n'est pas conçu par deux hommes ou par deux femmes. Et je finis.
Terminé.
Et puisque l'homme et la femme sont différents, dans la relation à l'enfant, parce que chacun, du fait de toute l'histoire de l'enfant, a un rapport, un lien, une relation donc à l'enfant qui est différente, eh bien, cette richesse, le fait d'avoir un père et une mère qui vous ont donné la vie, donc déjà, vous avez quelque chose de particulier avec chacun d'eux, et cette richesse, cette différence, elle est extraordinaire. Et priver volontairement, sciemment, un enfant de son père ou de sa mère, c'est d'un, soyons clairs, c'est d'un égoïsme sidérant. Et soi-disant, c'est par amour. Mais excusez-moi, mais un amour qui prive un enfant de l'un de ses parents, c'est tellement important, un parent dans la vie. Et ça a du sens, et ça a une continuité. Et d'ailleurs, on a levé l'anonymat du don de gamètes. Alors ça, c'était une chose qui était bien dans la loi de bioéthique de 2021. Parce que justement, on sait bien que celui qui vous a donné la vie, il est important dans votre vie. Et vous avez besoin, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, dans la mesure du possible, bien sûr, de le connaître, et c'est aussi dans la Convention des droits de l'enfant, d'être élevé par lui. Alors évidemment, dans la réalité, il y a les aléas de la vie, c'est pas toujours possible, on est d'accord, mais là, c'est l'État, le législateur, sous la pression d'un certain militantisme qui fait de la victimisation, alors tout le monde a de la peine et peu ose s'opposer, mais finalement, la loi a institué cette possibilité de faire de l'enfant un orphelin de père. Eh bien, c'est une injustice qui, pour ma part, me révolte profondément. Un père, c'est merveilleux pour un petit garçon ou une petite fille. Et tout comme une mère, mais qui est bien différente pour un enfant, tout comme une mère est merveilleuse. On a besoin, si possible, et le droit d'avoir les deux. Mais les droits de l'enfant, il y en a qui s'en fichent.
La réponse de Louise Barrault.
Oui, alors bon, déjà, je trouve extrêmement cocasse de me faire retraiter de puritaine de la part de Madame de la Rochère.
Oui.
Ensuite, puisque vous tenez absolument à ce qu'une famille soit composée d'un père, d'une mère et d'un ou plusieurs enfants.
La filiation, je ne vais pas parler de la famille, c'est la filiation. Un enfant, okay. Il naît d'un homme et d'une femme.
Très bien.
Même quand il y a soi-disant deux mères ou deux pères.
Très bien.
Il naît d'un homme et d'une femme.
Vous savez qu'en France, il y a près d'un tiers des enfants qui vivent dans une famille non traditionnelle et près d'un quart famille monoparentale.
Mais moi, je vous parle de la filiation.
Très bien.
Ils sont
quand
même
tous nés d'un père
et d'une mère, mademoiselle.
Dans votre conception de la famille, vous êtes contre l'adoption.
Mais non, mais mademoiselle,
mais
bien, pas du tout.
Mais
ne soyez pas dans la caricature. L'adoption vient réparer un accident de la vie.
Ne vous marchez pas dessus, Louise Barrault. Expliquez vos arguments et on clôturera
là-dessus. Le réel, c'est que tous les enfants dont vous parlez, ils ont un père et une mère. C'est
alors,
tout ce que
peu
je
importe,
dis.
Mais je vois pas pourquoi est-ce que le caractère biologique d'un donneur de sperme pour un couple de femmes qui voudraient avoir une PMA prévaudrait sur toute l'éducation, l'amour qui est porté à cet enfant pendant des années, qui va l'élever, qui va le faire grandir. Pourquoi est-ce que le biologique prévaudrait
mais
sur le reste? Ça n'a
par
pas
le
de
biologique,
sens.
Parce
mais
que
c'est
nous
vous
sommes...
qui êtes obsédé par le biologique à dire que
faire
un enfant, c'est naturel.
C'est
dans l'ordre des choses. Mais bien entendu que je suis dans la construction sociale. Bien entendu que, évidemment, moi je suis chez ELV parce que je milite pour une société qui est plus égalitaire,
pas pour les enfants.
Plus juste,
pas pour
mais
les
bien
enfants.
Sûr pour les
enfants. Il y a des
enfants
que vous privez volontairement et que vous avez vu comme d'autres privés volontairement de père.
Je ne prive personne de père. Au contraire, je milite pour que les enfants puissent grandir dans un foyer avec deux parents qui les aiment.
Alors, l'être humain n'est pas indifférencié.
Je suis désolé,
il y a pas de parents, il y a
je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission. Vous voyez, c'est passé très vite. Juste en 30 secondes chacune, le mot de la fin, Ludovine de la Rochère.
Écoutez, moi, je voudrais simplement dire que l'enfant, qui est le plus petit, le plus vulnérable, je pense qu'il doit être infiniment respecté dans ce qu'il est, un garçon ou une fille. Nous devons l'aider à être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et toute la propagande qui consiste à vouloir remettre en cause son identité sexuée, à mon sens, est très grave. Elle est troublante pour lui, elle peut le mettre mal à l'aise, elle peut le mettre en souffrance. Il faut au contraire le respecter tel qu'il est. Et il faut l'aider donc à être bien dans ses baskets. Et de la même manière, respecter l'enfant implique de ne pas le priver volontairement d'un père ou d'une mère. Et le sujet reste d'actualité puisque aujourd'hui, il y a une propagande massive en faveur de la gestation pour autrui, malheureusement.
Louise Barrault, en 30 secondes.
En ce qui me concerne, je considère que pour qu'un enfant puisse grandir dans de bonnes conditions, il faut être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins, de ce qu'il veut. Nous, chez Europe Écologie, on se bat pour que les différences, les particularités de chacun puissent être écoutées et entendues, que chacun puisse vivre dans un environnement, dans le corps qui lui plaît, dans le genre qui lui plaît, et mener les combats qu'il le souhaite, tout en préservant la planète.
Donc vous faites la promotion de la chirurgie de réassignation sexuelle absolument pas.
Vous avez caricaturé mes propos depuis le début de l'émission.
Écoutez, on va clôturer maintenant. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, déjà d'avoir exposé vos arguments. Et tout de suite, on propose l'agenda de l'Église dans votre région à nos auditeurs de Radio Présence.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette Église Actualité avec un parcours proposé par le centre spirituel jésuite Les Coteaux Païs à destination des personnes séparées et divorcées. La première rencontre a lieu au centre Coteaux Païs, 9 rue Montplaisir à Toulouse, entre midi et 17h. Le thème, c'est traverser l'épreuve. Ce sera l'occasion de faire connaissance, de partager autour de ce que nous vivons, disent les organisateurs. La rencontre a lieu samedi. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 05 62 71 65 30, 05 62 71 65 30, ou envoyer un mail à secrétariat@coteaux-païs.net. De leur côté, les rencontres Schma propose de vivre un temps de prière suivi d'un temps fraternel autour d'un goûter partagé. Ce temps de prière a lieu samedi à l'Ermitage Notre-Dame de Selles, à Selles, c'est dans l'Ariège. Information au 06 71 77 33 71, 06 71 77 33 71. Dimanche, c'est la journée Saint-Luc. Elle est organisée par le diocèse d'Auch. Rendez-vous est donné en la cathédrale Sainte-Marie à Auch à 10h30. Renseignements au 05 62 61 91 51. 05 62 61 91 51. Et pour conclure, le diocèse de Pamiers organise une messe d'action de grâce pour l'installation de Mgr Jean-Marc Etienne comme évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. La messe a lieu samedi à 10h30 en la cathédrale de Pamiers. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous lundi pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission. Merci à mes deux invités, Louise Barraud, d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup.
Merci Ludovine de la Rochère d'avoir accepté mon invitation aussi.
Merci à vous.
Et merci à vous, auditeurs, d'être fidèles à Radio Présence et Vivante Église. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Si vous voulez réécouter celle-ci, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.